cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 8 janvier 1992.
Nous allons continuer cette étude de l'éthique religieuse. On était resté au passage de l'adoration à la contemplation. Alors, il y a quelques questions. Une éthique qui ne tend pas vers la contemplation peut-elle être qualifiée de religieuse? Alors, en ce sens, l'éthique stoïcienne qui exclut la contemplation en ne prenant qu'une soumission absolue à la volonté de Zeus et qui écarte la causalité finale en ne retenant que la causalité exemplaire est-elle religieuse? De même, qu'y a-t-il de religieux dans l'éthique épicurienne de la jouissance et de l'épanouissement? Jusqu'à la contemplation, hein. L'éthique épicurienne reconnaît certaines contemplations, mais c'est pas une contemplation de Dieu, c'est de soi. Je me contemple. Mais c'est ce que disait le père de haut, bien distinguer l'oraison du petit chat qui se chauffe auprès du feu, il ronronne, et le vol de l'aigle. Le petit chat qui est auprès du feu et qui ronronne, il fait froid dehors, là il fait chaud, comme c'est agréable. Et personne ne vous dérange. Ce qu'on contemple, c'est évidemment pas une contemplation, c'est épicurien. Le chat est très épicurien. Alors, c'est très juste. Une éthique religieuse qui refuse la contemplation n'est plus une éthique religieuse. En réalité, une telle éthique n'implique pas l'adoration. L'éthique épicurienne n'implique pas, je veux dire, épicurienne ou stoïcienne, n'implique pas l'adoration. Ils impliquent la soumission à Zeus dans l'efficacité. C'est très subtil, mais c'est l'efficacité qu'on cherche. On cherche à être un homme sur lequel on peut compter et qui réalise quelque chose. Il n'y a plus d'adoration. La véritable adoration ouvre nécessairement à la contemplation. Une adoration ne peut pas s'arrêter à elle-même. Puisque le contact, la présence de Dieu, du Créateur, éveille en nous, par l'adoration, une soif de le connaître. Donc un appel à la contemplation, autant qu'on le peut. C'est ce lien très mystérieux qu'il faut essayer de comprendre. Mais l'adoration est réaliste. C'est Dieu qu'on adore. C'est la présence de Dieu qu'on adore. Au sens très très fort. Ce n'est pas nous qui nous regardons adorant. Quand on se regarde adorant, on se regarde uniquement soumis à Zeus. Alors, à ce moment-là, vous voyez, on n'est plus dans l'adoration. On est dans une attitude réflexive sur le vécu de l'adoration. Et le vécu de l'adoration n'est pas l'adoration. Puisque le problème de l'adoration, c'est justement de s'oublier complètement. Quand on est en présence de Dieu, on est au garde-à-vous divin. On est là tout entier tourné vers Dieu. Dans l'obscurité, on est tout entier tourné vers Dieu. C'est Dieu qui intéresse. Et c'est la présence de Dieu qui intéresse. C'est pas notre présence en face de Dieu. Comme je suis beau quand je suis en face de Dieu. Alors c'est plus l'adoration, c'est le vécu de l'adoration. L'adoration a ce réalisme particulier de la présence de Dieu. Je ne peux pas adorer sans ce jugement d'existence. Dieu est là. Et c'est ce Dieu est là qui est l'important. Et qui polarise toute mon adoration. Et qui exige de moi d'avoir cette soif de le regarder, cette soif d'être ordonné vers lui et de me tenir en sa présence. Alors, l'éthique religieuse commence par l'adoration. Et l'adoration est un appel vers la contemplation. Alors, il peut se faire, vous voyez, que je vive vraiment une attitude religieuse dans l'adoration sans aboutir à la contemplation. Mais je la cherche. Il y a ouverture à la contemplation. Il y a appel à la contemplation. Parce que la contemplation, c'est quelque chose de tellement grand qu'on est toujours un peu des novices dans la contemplation. Celui qui se dit « Je suis une âme contemplative », ça prouve qu'il n'a rien compris. Parce qu'on n'est pas une âme contemplative, on est une âme religieuse qui adore. Et l'adoration me donne soif de la contemplation. Parce que celui qui dit « je suis une âme contemplative » la plupart du temps, c'est pas du tout ça. C'est pas la contemplation. C'est tout simplement l'évasion par rapport au travail. Par rapport à ce que représentent les exigences du travail. Alors, on identifie contemplation et repos. Et vous retrouvez le petit chat en face du feu qui miaule. On est heureux. Là. Et c'est assez subtil, hein, parce qu'on est dans le monde spirituel. Là. Et qu'est-ce qui maintient la vérité de la contemplation, du reste, nous allons le voir, c'est justement ce réalisme de l'adoration. Donc, vous voyez, je suis tout à fait d'accord que l'éthique stoïcienne n'est pas une éthique vraiment religieuse. Elle repose sur des traditions religieuses. L'éthique stoïcienne, l'éthique épicurienne n'est pas vraiment religieuse. Parce que, à la place de regarder la présence de Dieu, on regarde le vécu de cette présence de Dieu pour moi. Et on dit que ce vécu de cette présence religieuse, de cette présence de Dieu sur moi, c'est ce qu'il y a de plus épanouissant. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est là où la jouissance est la plus parfaite. En réalité, la joie. Mais au fond, on maintient la jouissance qui maintient. Ce qui montre bien que ce n'est pas religieux. Au point de vue religieux, il y a un effacement de soi en face de Dieu. L'attitude de l'adoration, c'est laisser Dieu passer devant. Et donc, on s'efface complètement en face de Dieu. Peut-on dire que toute éthique qui ne repose pas sur l'adoration n'est pas religieux ? Je crois. Moi, personnellement, je dirais que toute éthique religieuse qui ne repose pas sur l'adoration n'est plus religieuse. Elle est le prolongement d'une éthique qui devient esthétique. C'est un esthétisme, une contemplation de soi. Mais ce n'est plus une éthique religieuse. C'est vraiment, vous voyez, comme au fond, pour l'amour d'amitié. C'est un peu les deux choses. Hein. Une éthique qui ne comprend plus ce que c'est que l'amour d'amitié n'est plus humaine. efficacité, c'est une ascèse. Ne confondons pas éthique et ascèse. On passe de l'éthique humaine à l'ascèse quand on ne voit plus que l'effort. Ce n'est plus la responsabilité et l'amour, mais c'est l'effort. L'effort sportif. Il y a une certaine éthique du sport. C'est ça, on ne peut pas nier le risque. On désire réaliser quelque chose. C'est la première forme de l'éthique, ça. Un sportif a une certaine éthique. Une danseuse ou un danseur a une certaine éthique. Et même très forte. Et un danseur ou une danseuse, quand ils entrent en vie religieuse, ils disent, mais c'est rien du tout la cesse religieuse comparativement à la cesse que j'avais en tant qu'artiste. Et c'est très vrai. Parce que l'ascèse religieuse est tout entière relative à l'adoration. Elle est dépassée par l'adoration. Tandis qu'au contraire, dans le point de vue artistique, l'ascèse est liée à cet art particulier de la danse. C'est inséparablement lié. Regardez dans les différents aspects de l'art, on voit combien la cesse quelquefois est quelque chose de capital. Vous voyez, dans Rilke, on voit ça très fort. Et c'est beau, tu vois. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose de grand dans cette ascèse. C'est une maîtrise de soi, une maîtrise de son corps. Alors on rejoindrait là l'éthique stoïcienne et l'éthique épicurienne. Parce que elles sont toutes les deux contraires. Mais toutes les deux ont quelque chose de commun. C'est qu'à la place de regarder la substance de l'éthique, on regarde uniquement les propriétés. La propriété de l'effort, de la cesse, et la propriété de la jouissance. L'amour implique un effort, parce que c'est l'amour qui nous donne la force de dominer. Et l'amour implique la joie. Alors quand on s'arrête à la joie ou à la jouissance, et quand on s'arrête à l'effort, on a deux sortes d'éthique, l'éthique stoïcienne et l'éthique épicurienne, mais qui ne sont pas la véritable éthique. Parce que la véritable éthique est une relation personnelle, ou d'homme à homme, ou de homme créature à Dieu créateur. Oui. Toute éthique implique une relation personnelle, puisque c'est dans la relation personnelle seulement que je découvre la vraie responsabilité et le véritable amour. Et très facilement, on glisse dans le point de vue secondaire, les conséquences, l'éthique épicurienne, la joie, la jouissance, l'éthique stoïcienne, la maîtrise de soi, l'effort. Il y a des sportifs qui ont une ascèse extrêmement rigoureuse pour le sport et en dehors de leur rien du tout. Ceux qui se donnent entièrement à l'aviation, c'est une éthique extrêmement rigoureuse. Je dirais c'est une ascèse extrêmement rigoureuse. Mais c'est une ascèse. Et là, dès qu'ils peuvent, ils se rattrapent. Alors, c'est plus du tout l'éthique humaine. C'est une ascèse. En vue du facere. En vue du faire. Quand vous voyez des jeunes aviateurs, de jeunes pilotes, qui se donnent à fond, et qui sont pris entièrement par cette ascèse, c'est très beau, c'est grand. C'est pas du tout petit bourgeois. C'est grand, mais ça reste dans l'ordre de l'efficacité. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas une véritable éthique humaine. C'est tout à fait en dehors. C'est l'éthique de l'efficacité. De l'efficacité à travers un instrument qui vous domine. On est entièrement celui qui est pris par cet instrument qui prolonge d'une manière étonnante pensée très forte au point de vue des valeurs. C'est pas le seul, hein, j'ai quantité d'autres. Qu'est-ce que c'est que la valeur? Dites à votre ami, tu es ma valeur. Ça heurte. Ça va pas très bien. Quelle différence y a-t-il entre l'ami et la valeur? Comparez les deux. Alors, à partir de là, vous allez commencer à comprendre un tout petit peu ce que c'est que l'éthique des valeurs. L'ami, c'est une personne qui me finalise, que j'aime. C'est ça, l'ami. Donc, c'est un dépassement de nous-mêmes pour rencontrer quelqu'un qui s'impose à moi, qui m'attire et qui réalise en moi un véritable amour et donc un dépassement de moi-même. C'est ça le propre de l'ami. La valeur est d'ordre de causalité exemplaire. Je me donne un idéal. Le christianisme, ce n'est pas un idéal. C'est bien plus. C'est l'amour à l'égard d'une personne. Mais des quantités de chrétiens vivent leur vie chrétienne comme un idéal. Des quantités de religieux vivent leur vie religieuse comme un idéal. Alors ça tient un certain nombre d'années, puis tout d'un coup ça craque. Alors que la vie religieuse n'est pas un idéal. C'est en vue de la sainteté. Et la sainteté, c'est le lien d'amour à l'égard d'une personne. Mais des quantités de religieux vivent leur vie religieuse comme un idéal. Alors c'est pour ça que c'est catastrophique si on supprime la vie religieuse. Alors on voit du tout. La vie religieuse n'est qu'un moyen en vue d'une fin. Alors je fais tout ce que je peux pour avoir ce moyen. Mais si on me dit non, vous ne pouvez pas pour telle ou telle raison, la finalité demeure. Mais si on a fait de la vie religieuse un idéal, alors tout craque. Vous me retirez mon bien. Mais non, je ne vous retire pas votre bien. Votre bien, c'est le Christ. C'est Jésus, votre bien. C'est Jésus qui est notre finalité. Ça, personne ne peut nous le retirer. Hein. Je peux vivre de cette finalité n'importe où. Cellule intérieure. Les vœux privés sont liés, me lient à Jésus. Et ça, personne ne peut me retirer. Mais on peut vous retirer telle manière de vivre cette finalité. Ça oui. En disant, en raison de telle ou telle chose, il vaut mieux pour vous, c'est meilleur pour vous de ne pas vivre ça. Et de le vivre autrement. Vous voyez, la vie religieuse n'est pas un idéal. Elle est un moyen très important, un moyen qui a une valeur très grande, mais c'est un moyen. Le moyen n'est pas une valeur, et la fin n'est pas une valeur. La fin, c'est un bien personnel, la fin humaine. Alors, la valeur, comment naît en nous une valeur? Vous dira la valeur maintenir en nous une recherche de vérité. Est-ce que c'est une valeur? Non. La recherche de la vérité n'est pas une valeur. C'est plus qu'une valeur, puisque c'est la fin de mon intelligence. La vérité est la fin de mon intelligence. Mon intelligence n'est vraiment elle-même que quand elle atteint la vérité. Donc c'est beaucoup plus qu'une valeur. C'est ce qui me permettra aimer vraiment. Je ne peux aimer vraiment que lorsque je suis justement en présence. De cette vérité à l'égard de cette personne que j'aime. Donc c'est un dépassement des valeurs. Je crois que les valeurs sont nées en climat idéaliste. D'un idéaliste qui ne savait plus ce que c'était que la fin, la finalité. C'est comme ça qu'est est née la philosophie des valeurs, comme un ersatz de la finalité. La reprise d'une certaine finalité dans un idéalisme, mais on reste dans l'idéalisme des valeurs. Il faut faire attention, hein. Faire attention à ce que je dis. Parce que des quantités aujourd'hui sont pour l'éthique des valeurs. Et en réalité, ils recherchent une fin. Mais ils n'ont plus le mot. Le mot est perdu. Et puis ils disent le mot finalité ne dit plus rien. Il faut parler des valeurs. Donc vous le faites à titre de propagande rhétorique. Si vous n'êtes pas dupe, alors jusqu'où peut-on employer une rhétorique pour réveiller les gens? Question très délicate. Parce que c'est vrai, le mot valeur aujourd'hui, oui. Tout le monde marche quand il s'agit des valeurs. Tandis que quand il s'agit de la finalité, on ne comprend rien du tout. Alors faut-il brûler l'encens en face des idoles? C'est la question. Puisqu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la finalité, faut-il employer le mot valeur? Personnellement, pour éduquer, je l'emploierai pas, moi. Parce qu'on éduque dans la vérité. Mais pour la propagande, l'opium du peuple, les valeurs. C'est le très gros problème, ça. Il faut pas être dupe. Alors, les valeurs naissent en climat idéal, dans un idéalisme où je veux montrer la grandeur de l'homme. Et pour montrer la grandeur de l'homme, je rappelle les valeurs, l'amour, la vérité, la fidélité, la responsabilité. Voilà toutes les valeurs de l'homme. Si je regarde bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont les conséquences au point de vue de ma personne humaine, de ma finalité, de la vraie finalité, les conséquences, les propriétés. Alors les conséquences de cette vraie finalité, c'est l'homme qui, en quelque sorte, s'enrichit de ses valeurs. L'homme qui se drape de ses valeurs. Rester au niveau des valeurs, puisqu'elles sont des conséquences de quelque chose de primordial, qui est l'homme finalisé. Seul l'homme qui aime, et donc qui est finalisé, aura le sens de la responsabilité. Seul l'homme qui aime et qui a le sens de la finalité comprendra ce que c'est que l'amour. Seul l'homme qui est finalisé comprendra ce que c'est que la vérité, et ainsi de suite. Donc toutes ces valeurs ne prennent leur signification réaliste que lorsque j'atteins la finalité. C'est pour ça qu'au point de vue éducatif, je n'emploierai pas le mot valeur. Et je crois que c'est important. Maritain a essayé dans son éthique de intégrer la valeur et les valeurs. Je crois que c'est une erreur. Je crois qu'au plan philosophique, on doit être vrai. Et donc, ce n'est pas la valeur qui ennoblit l'homme, c'est la finalité qui permet à l'homme d'être parfaitement lui-même. Et à ce moment-là, de retrouver, à partir de la finalité, ce que nous appelons aujourd'hui valeur. Alors, vous allez me dire, le philosophe doit parler la langue de son temps et le langage de son temps. Pour être compris, c'est très vrai. Il peut le faire, mais en corrigeant ce qu'il y a de faux dans ses emprunts. Je peux emprunter le mot valeur, c'est sûr. Je peux l'emprunter. Mais je sais que je l'emprunte. Et je reste toujours lucide que ce mot est né dans un climat idéaliste et qu'il n'est pas le réalisme parfait. n'est pas un idéal, c'est une vie. Or, l'idéal n'est pas une vie. Parce que l'idéal, c'est ce que je n'atteins jamais. Mais quand je suis au désert, je comprends très bien que j'ai des mirages. Et l'idéal, c'est un mirage. Alors, je cours après. Alors, il faut être lucide. Le philosophe doit avoir cette lucidité. Mais il doit aussi comprendre qu'en période électorale, il emploie le langage que tout le monde peut comprendre. Alors, pour un homme politique, très bien. Il dit qu'il veut un retour aux valeurs. Je suis très bien, je suis tout à fait d'accord. En tant qu'homme politique, l'homme politique se sert de la rhétorique pour la propagande. Mais s'il est un grand politicien, il sait qu'il se sert de la politique. Ce n'est pas un mensonge, c'est une demi-vérité. Ce n'est pas la vérité plénière. Mais comme les hommes sont incapables de comprendre la vérité première, il emploie ce langage-là. Il le sait. Alors, il devrait, s'il était un très grand homme politique, employer ce langage et rectifier à l'intérieur de son discours son langage. Pour dire qu'en réalité, c'est l'homme qui est finalisé, qui est celui qui est responsable, celui qui a le sens de la fidélité, celui qui a le sens du vrai, et ainsi de suite. Je crois que là, vous voyez, c'est un très gros problème. Il ne faut pas le résoudre trop vite. Ben, faites attention de ne pas le résoudre trop vite. Mais il faut être parfaitement conscient que le mot valeur est une recherche de la finalité. Mais il ne faut pas s'y arrêter. Alors, si c'est une recherche de la finalité et qu'on est conscient de ça, très bien, c'est l'escabeau de la finalité. C'est ce qui va me réintroduire. Mais il faut dépasser. Si je m'y arrête, je suis sûr que ça va dégringoler. Parce que l'homme ne vit pas de valeur et d'idéal. Il vit d'un bien et d'une réalité qui est bonne, donc d'une personne. Peut-on dire qu'un engagement pris par une personne restant dans son intentionnalité a encore de la valeur? A encore de la valeur, vous voyez? Très significatif. C'est très bien ça, il faut se rendre compte, nous sommes de notre siècle. C'est tout à fait normal, ça ne me scandalise pas, c'est tout à fait normal. Peut-on dire qu'un engagement pris par une personne restant dans son intentionnalité a encore de la valeur? Donc, c'est-à-dire dans le vécu, dans son vécu d'intentionnalité, il prend un engagement. Je veux me donner totalement à Dieu. L'engagement religieux. Ou l'engagement d'amitié. Et il demeure dans son intentionnalité. C'est justement, alors je dirais, cette intentionnalité ne lui permet pas d'atteindre le réalisme absolu de son engagement. On s'engage à l'égard d'une personne. On fait des vœux à l'égard d'une personne. On s'engage à l'égard d'une personne. Donc l'engagement se termine à une personne qui est ma fin, qui est mon bien. Mais ceci implique une intentionnalité. Et si je demeure dans l'intentionnalité, je demeure dans le vécu de cet engagement. Et le vécu de cet engagement, c'est une valeur. Mais ce n'est pas la finalité. C'est vrai. Quelqu'un qui s'est engagé, mais qui s'est engagé vraiment et qui veut être fidèle à cet engagement, c'est une valeur. Toute sa vie est transformée. Celui qui ne veut jamais s'engager restera girouette, sans valeur. Tandis que celui qui s'engage, c'est une valeur. Mais attention, cet engagement est plus qu'une valeur. S'il est vécu pleinement, il doit retrouver passement du vécu et le lien avec la personne avec qui on veut coopérer. L'engagement est une alliance. L'alliance est avec une personne. Et cette alliance avec une personne fait que on pas cette année-ci. C'est bien tout de suite de le dire. L'adoration chrétienne est une adoration qui se fait par et dans la personne du Christ. On adore avec Jésus. C'est Jésus qui vient m'apprendre à adorer. Donc cette adoration a une dimension et une profondeur que n'a pas l'adoration purement religieuse. L'adoration religieuse, c'est l'adoration de la créature à l'égard de son créateur. L'adoration chrétienne, c'est l'adoration d'un chrétien membre du Christ qui adore le Père. Qui adore le Père dans un amour unique de fils bien-aimé. Et c'est pour ça que c'est une adoration en esprit, en vérité. Parce que ça se fait sous le souffle de l'Esprit Saint, en Jésus. C'est l'adoration du Christ qui devient mon adoration. Et l'adoration du Christ est l'adoration, non pas de la créature, c'est l'adoration du Fils bien-aimé. Donc ça va beaucoup plus loin dans l'ordre de l'amour. La structure de l'adoration, la spécificité de l'adoration reste la même. L'exercice de l'adoration est différent. Ça reste la même, puisque c'est toujours adorer. C'est toujours la créature qui adore son créateur. C'est toujours la créature qui reconnaît qu'elle est totalement dépendante de Dieu, du créateur. Mais je l'exerce autrement. Et c'est l'exercice qui est changé, pas la spécificité. Il n'y a pas une vertu nouvelle, une vertu de religion nouvelle, chrétienne. Il y a une vertu humaine, religieuse, vertu de religion, qui est la même, mais dont l'exercice est changé. C'est ce qu'on appelle en théologie la charité et la forme de toutes les vertus. C'est-à-dire qu'elle vient transformer l'exercice de toutes les vertus. Ça, c'est le propre de l'éthique chrétienne. C'est pour ça que l'éthique chrétienne présuppose l'éthique humaine. Et que si je n'ai qu'une éthique chrétienne, je ne regarderai que l'exercice. Donc le pose, la manière d'exercer. Est-ce que vous voyez bien ça? S'il y a des difficultés, dites-le tout de suite, parce que ça, c'est très important pour nous. Oui. Le pose, c'est le comment. C'est l'exercice. Le chrétien adore autrement que l'âme purement religieuse. Et quand le Saint-Père a uni, a assise, parce qu'il avait crié, tempêté à droite et à gauche, on sait très bien, a réuni, a assise tous ceux qui adoraient le Créateur face aux idéologies athées et laïques d'aujourd'hui. Oui. Il a fait un geste qui, pour moi, est très grand, analogue à celui d'Élie dans l'Ancien Testament. On n'a pas compris ça. Parce qu'on n'a pas la même dimension que le pape. On n'a pas compris ça. On a dit, voilà, le Saint-Père fait un syncrétisme absolu. Pas du tout. Celui qui adore le Créateur et qui n'est pas chrétien, a la même vertu de religion. Mais il y a une manière différente d'adorer. S'il n'y avait pas la même vertu de religion, on ne pourrait pas faire ça. C'est que le Saint-Père a une vision philosophique de l'homme, et l'homme est par nature religieux, et doit acquérir la vertu de religion. Celui qui adore vraiment le Créateur, et dans l'adoration, et acquiert la vertu de religion. Et la vertu de religion est semblable, spécifiquement la même, pour le chrétien, le non-chrétien. Pour celui qui reconnaît que le Créateur existe et que son âme est créée. Alors évidemment, dans une position fidéiste, hein, la plupart du temps, c'est la position fidéiste qui a fait ça. Le fidéisme est très dangereux. Je vous avais dit, Paul VI l'a dit, je l'ai entendu dans une entrevue, dans une audience qu'il donnait à des théologiens. J'ai dit le plus grand danger pour l'Église aujourd'hui, c'est le fidéisme. Et il avait parfaitement raison. C'est-à-dire la perte de l'intelligence philosophique, la perte de la métaphysique. Alors on devient fidéiste au niveau pratique et au niveau spéculatif. Alors au niveau pratique, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule adoration, l'adoration chrétienne. Donc le Saint-Père qui invite tout le monde, mais fait un schisme effrayant, une mélasse. Et ça prouve qu'il n'a pas le sens de l'adoration chrétienne. Ah, c'est le scandale. Ils ont été scandalisés. Il faut respecter toujours quelqu'un qui est scandalisé. Il faut toujours respecter. Il ne faut pas lui jeter de l'huile bouillante, de la poix sur le dos. Il faut l'expliquer. Voulez-vous comprendre ce geste du pape? C'est parce que pour le pape, l'homme doit adorer son Dieu et son Créateur. Et que quand on est en face d'une opposition aussi violente qu'aujourd'hui, une laïcité et un athéisme aussi violent, on doit tous s'unir contre cet athéisme qui supprime dans le cœur de l'homme ce qu'il y a de plus précieux et de plus profond, l'attitude religieuse. Et le Saint-Père a fait ça pour cela. Mais si je suis fidéiste, seul le chrétien peut adorer. Je dois dire, seul le chrétien adore d'une manière parfaite. Ah oui, ça oui. Sa modalité, la manière dont il adore, est l'adoration la plus parfaite en esprit, en vérité. Avec le Christ et par lui. Parce que c'est l'adoration du Fils bien-aimé. Si c'est l'adoration du Fils bien-aimé, cette adoration est parfaite. Mais l'adoration reste une attitude humaine, fondamentalement parlant. Tout homme bien-né doit adorer son Dieu. Je dis bien, doit adorer son Dieu. Premier commandement à l'adoration. Éthique religieuse. Et cette adoration met en lui progressivement la vertu de religion qui est spécifiquement la même chez celui qui n'est pas chrétien mais qui adore son Créateur et le chrétien. Mais chez le chrétien, il y a une manière d'adorer qui est parfaite, qui atteint le sommet de l'adoration. C'est pour ça que le chrétien est plus responsable que n'importe quel autre homme du mystère de l'adoration. Et le Christ parmi les chrétiens est comme source de tous les chrétiens, comme chef, et celui qui nous montre le mieux ce que c'est que l'adoration à la croix. Son adoration prend là une forme tout à fait unique d'Holocauste. C'est dans l'Holocauste de la croix que Jésus fait comprendre ce que c'est que l'adoration. Au monde entier, pour les chrétiens en premier lieu, mais au monde entier, pour Marie en premier lieu, et au monde entier. Et le monde entier devrait comprendre l'adoration du Fils bien-aimé à la croix. S'il n'a pas la révélation, elle peut au moins comprendre que ce geste est grand et qu'il a quelque chose d'unique.